Marianne, chapitre 4. Cette lettre était de M. Jean Gaucher, ex-commerçant à La Faye-sur-Gouvre, établi depuis 10 ans à Paris et y faisant bien ses affaires. Mon cher André, j'ai un grand service à te demander, qui ne te coûtera probablement que quelques paroles à échanger. Tu sais que mon fils Philippe, bien plus léger, bien moins studieux que son frère cadet, s'est fourré dans les arts et prétend faire de la peinture. Il a du goût, de l'esprit, un bon cœur, peu de jugement, encore moins de prévoyance. Enfin, tu le connais, et tel qu'il est, tu as de l'amitié pour lui. Il faut le marier. Il m'a dépensé déjà pas mal d'argent, et il n'en gagne pas encore. En gagnera-t-il plus tard? Je n'y compte guère. Mais je peux lui donner 100 000 francs pour s'établir. Et comme il est aimable et joli garçon, que notre famille est honorable et mon nom sans tache, il peut aspirer à trouver une demoiselle de 200 000 francs. Dans cette position-là, il pourra vivre sans travailler, puisque c'est son rêve, et s'amuser à peindre, puisque c'est son goût. Mais il serait bon que la demoiselle eût des habitudes modestes, et à Paris ce serait un oiseau rare. Dans notre bon et honnête pays, on peut encore rencontrer ça. Et j'ai jeté les yeux sur la petite Chevreuse, qui est dans une bonne position de fortune et qui a été élevée à la campagne. J'ai connu ses parents, qui étaient d'honnêtes gens, et je l'ai vue elle-même l'an dernier à La Faye. Elle n'est pas bien belle, mais elle n'est pas laide. Dans ta dernière lettre, tu m'as fait l'éloge de sa conduite aimable avec ta mère, et puisqu'elle n'est pas encore mariée, je pense que mon fils lui conviendra. Donc, mon cher ami, je t'envoie mon Philippe pour 8 jours. Il sera chez toi le 7 de ce mois. Il ne répugne point au mariage, mais il ne voudrait pas d'une femme laide et mal élevée. Il verra chez toi Marianne Chevreuse, et si elle ne lui déplaît pas, tu pourras engager l'affaire pendant son séjour ou aussitôt après son départ. Je compte sur ta vieille affection. À charge de revanche. Pourquoi cette lettre si bourgeoise et si simple causa-t-elle à Pierre-André une vive irritation? D'abord, il trouva que M. Jean Gaucher agissait fort cavalièrement avec lui. Gaucher était riche, et pourtant, dans ses jours de pire détresse, Pierre ne s'était jamais senti assez lié avec lui pour lui demander la moindre assistance. Peut-être ce vieux ami de ses jeunes ans eût-il pu deviner, sans trop d'effort, que Pierre manquait de tout, et lui offrir au moins un emploi convenable dans sa maison. En homme pratique, Gaucher s'était bien gardé d'y songer, sous prétexte que Pierre était un homme trop instruit et trop distingué pour ne pas trouver mieux. Pierre ne lui devait donc aucune reconnaissance, et le trouvait indiscret de lui envoyer un hôte qui probablement lui saurait peu de gré de son hospitalité, et ne le dédommagerait pas intellectuellement de la perte de ses journées. Il connaissait fort peu le jeune homme, et bien qu'il le tutoyât pour l'avoir vu tout petit, il n'éprouvait pour lui aucune sympathie. Il lui avait toujours trouvé trop d'aplomb pour son âge. En outre, il ne l'avait pas vu depuis 3 ou 4 ans, et ne se trouvait pas assez renseigné sur son compte pour l'endosser auprès d'une fille à marier quelconque, à plus forte raison auprès de Marianne, qu'il respectait comme une personne irréprochable, et à laquelle l'attachait la sympathie, la reconnaissance et l'espèce d'adoption que crée le titre de parrain. Son premier mouvement fut de répondre. « Mon cher Gaucher, vous m'investissez d'une fonction à laquelle je me sens tout à fait impropre. N'ayant jamais su me servir moi-même, comment saurais-je servir les autres dans une entreprise aussi délicate que le mariage? Votre projet me paraît d'ailleurs chimérique. Mademoiselle Chevreuse, vous avez oublié qu'elle a 25 ans, trouvera probablement Philippe trop jeune, et je ne sais même pas si elle n'a pas renoncé à l'idée d'aliéner sa liberté. Lui demander ce qu'elle pense à cet égard me paraîtrait, quant à moi, une indiscrétion que je ne suis pas encore d'âge à commettre.
Vieux fou !
S'écria intérieurement Pierre-André en interrompant sa lettre.
Qu'est-ce que tu écris là ? Le gaucher se moquerait de toi.
Il a 60 ans, lui, et il croit que tout le monde est de son âge.
Et puis tu mens. Pourquoi ne parlerais-tu pas d'amour et de mariage à ta filleule ? Elle ne se fâcherait nullement de te voir travailler à son bonheur, et elle te répondrait, sans rougir et sans trembler, qu'elle veut bien voir le prétendant en question. Il y a plus. Si elle apprenait plus tard que tu as travaillé à l'en débarrasser, que penserait-elle de toi ? Non, il ne faut pas envoyer cette lettre. Je vais écrire que, forcé de m'absenter, je prie les gauchers de choisir un autre mandataire.
Chapitre 5. Pierre-André déchira sa lettre. Mais, au moment d'en écrire une autre, il calcula qu'elle ne partirait de la faille sur Gouvre que le lendemain, qu'elle mettrait 2 jours pour parvenir à Paris, et qu'elle n'y serait distribuée que le jour et peut-être après l'heure du départ de Philippe pour la faille. Il était donc trop tard pour envoyer son refus, et M. Jean Gaucher avait escompté son consentement. Il se résigna et alla se promener le long de la Gouvre, afin de dissiper son dépit par une promenade dans les charmantes prairies où court ce ruisseau limpide. C'est de là que, caché dans les saulées festonnés de liserons blancs et de balsamines sauvages, il vit passer Marianne, comme cela lui arrivait assez souvent, sans qu'il en fût ému d'une manière appréciable. Cette fois, son apparition le troubla, et, au lieu de l'appeler par un bonjour amical, il s'enfonça dans les branches et commença à s'interroger avec une ironie un peu amère. Ce qu'il se dit alors est la suite du monologue placé en tête de notre récit. Mais ce fut un monologue écrit. Pierre aimait à écrire. Il avait toujours senti la vocation fermenter en lui sous la forme d'élan qui avait besoin de l'expression pour se compléter. Ses élans intérieurs avaient tyrannisé sa vie sans la féconder, parce qu'il les refoulait ordinairement sans vouloir les traduire. Il s'imagina ce jour-là qu'il serait maître de son agitation s'il prenait la peine de la discuter. Il avait toujours sur lui un carnet d'un assez grand format et le remplissait souvent dans sa promenade du matin. Épris d'histoire naturelle, de peinture et d'archéologie, il y consignait ses remarques, y jetait parfois le croquis d'une ruine ou d'un paysage, et, comme il ne se défendait pas d'aimer et de goûter la nature et l'art, il se trouvait souvent que ses observations prenaient une forme descriptive assez littéraire. « Mon mal, se dit-il, c'est la rêverie. Je m'y évapore comme une brume au soleil. Quand je fixe ma jouissance par l'expression, je m'en trouve bien. » Pourquoi n'essayerais-je pas de fixer aujourd'hui ma souffrance ? Car je souffre, le diable sait pourquoi, et je pourrais souffrir longtemps ainsi sans le découvrir moi-même. Sortons du vague, dégageons-nous de l'inconscience, voyons ce que c'est. Si je peux le formuler, c'est que cela existe. Sinon, ce n'est rien et passera tout seul. En devisant ainsi avec lui-même, Pierre avait taillé son crayon et ouvert son album. Assis sur l'herbe, à l'ombre des saules et des aunes, il écrivait. Chapitre 6. Je m'ennuie absolument depuis une semaine. Mon ermitage ne réalise pas mon joli rêve. Je le voudrais moussu, garni de pampres et de clématites. Avant que tout ce que j'ai planté serve de tapisserie, je ne vois que mes murs d'un blanc criard, avec leurs encadrements de briques trop neuves. Heureusement, ma mère admire tout et se promet de vivre 100 ans dans ce palais. Pauvre chère femme, qu'elle y vive, qu'elle en soit fière
qu'elle s'y plaise. Je supporterai l'incommensurable ennui qui va peut-être m'y ronger. Je dis encore « peut-être ». Qui sait ? J'ai cru longtemps qu'ayant tant de facultés pour l'aspiration et le regret, j'en aurais pour le renoncement et le calme. Mais l'équilibre est détruit, ou bien il ne s'est pas encore établi. Suis-je trop jeune ou trop vieux ? Suis-je un homme usé ou brisé ? Qu'importe si le résultat est le même. Je suis plutôt un homme dévoré. Les bêtes sauvages m'ont mangé à demi. Ce qui reste de mon cœur ne me sert plus qu'à sentir ce qui m'en manque. À quoi bon ces plaintes ? Où vont ces vaines doléances ? Qui s'y intéressera jamais ? Ma mère doit les ignorer. Quel autre cœur que le sien ressentirait la blessure ? Marianne ? Eh bien quoi, Marianne ? Je pense à elle parce qu'elle est la seule personne qui, avec ma mère, constitue ma vie d'intimité. Mais il y a une trop grande distance entre nous pour que je l'associe à mes rêveries. Différence d'âge, d'expérience, de réflexion. Elle a pourtant l'air de réfléchir, Marianne. Mais elle parle si peu. Ses manières et sa physionomie n'ont jamais indiqué aucun besoin d'épanchement. Je la crois très heureuse, elle. Son caractère est d'une égalité surprenante. Sa santé, d'apparence si frêle et dont je me suis inquiétée longtemps, est une santé à toute épreuve. Le froid, le chaud, la pluie, la neige, les longues courses, les veilles, rien ne l'altère. Elle a passé je ne sais combien de nuits au chevet des malades, à celui de mon père surtout. Ma mère était brisée de fatigue, Marianne était debout et impassible. Elle n'a pas beaucoup de sensibilité. Elle ne pleurait pas de voir pleurer ma mère. Mais elle était toujours là et réussissait à la distraire. Elle est à coup sûr généreuse et bonne, courageuse et fidèle. Si j'avais 10 ans de moins et 100 000 francs de plus, j'aurais certainement aspiré à en faire la compagne de ma vie. Elle ne m'eût pas inspiré l'amour, je ne le crois pas du moins. Elle m'eût inspiré une haute estime, une confiance sans bornes. C'eût été bien assez pour être heureux. Non, je ne serais jamais heureux dans ces conditions-là. J'ai aimé passionnément, sans espoir et sans expansion. L'amour est un délire, un enthousiasme, un rêve qui ne peut naître que d'un état de choses impossible et violent. Quand on a eu la joie et le désespoir de le ressentir, les unions sûres et paisibles n'ont plus ni charme ni vertu pour guérir ces brûlures profondes. Dès lors, pourquoi faire le malheur d'une honnête et digne créature qui n'en peut mais ? Le malheur, Marianne serait-elle capable de souffrir du plus ou moins d'affection ? Oui, si elle était capable d'aimer, mais il n'est pas probable qu'elle le soit. De 15 à 25 ans, la vie d'une femme subit l'orage des sens ou de l'imagination, et Marianne a traversé cette crise redoutable sans dire un mot, sans faire un pas pour s'y jeter ou s'y soustraire. C'est une âme froide ou forte. À présent, elle est sauvée, elle a doublé le cap des tempêtes, elle s'est pétrifiée, elle a pris le goût et le pli de l'immobilité. Bienfait négatif de la vie de campagne, telle que nous la menons ici. Bonheur stupide et froid que j'ambitionne pour moi-même, sans espoir de le trouver de sitôt. Ai-je donc encore 10 ans à souffrir ainsi avant de me refroidir ? Si je demandais à Marianne le secret de sa victoire, elle ne me comprendrait pas ou ne voudrait pas me répondre. Elle me trouverait absurde de ne l'avoir pas deviné. Et je suis absurde en effet, car je ne la devine pas du tout. Le fait est que peu d'hommes sont capables de comprendre et de connaître les femmes. Généralement, celles qui nous fascinent et se refusent restent des énigmes pour nous. Celles qui se livrent perdent tout prestige, et on ne se donne plus la peine de suivre les mouvements de leur âme quand on a épuisé l'enivrement des sens. Sous ce rapport, le mariage est un tombeau. je m'applaudis d'être trop vieux et trop gueux pour m'y laisser prendre. M'est avis que je n'ai rien pensé qui vaille depuis un quart d'heure que j'écris. Je me relis sans me comprendre. Je n'y peux deviner que l'aiguillon d'une sotte curiosité dont l'objet est Marianne. Je suis troublé et anxieux. Marianne est la sérénité en personne. De quel droit passe-t-elle devant moi comme un reproche et une ironie, sans daigner deviner que je suis là, sans pressentir que je peux être malheureux? Certainement, elle n'est pas armée, comme je devrais l'être, de philosophie et d'expérience. Elle est une enfant auprès de moi. Aucune lutte n'a éprouvé ses forces. Aucune déception n'a flétri son esprit. Eh bien, mon Dieu, c'est justement pour cela qu'elle est plus forte. Elle n'a rien perdu d'elle-même. Elle n'a pas été mangée par les loups et les vautours. Elle est intacte et vit de toute sa vie. Quelque peu intense que soit sa flamme intérieure, elle lui suffit. Et ce qui m'en reste, à moi, ne sert plus qu'à me consumer. Chapitre 7. Pierre ferma son carnet et le remit dans sa poche. Il demeura quelques instants en contemplation devant les libellules qui se poursuivaient sur les eaux frissonnantes du ruisseau. Il remarqua l'affinité qui existe entre les ailes de ces beaux insectes et la couleur irisée des eaux courantes. Il trouva aussi une relation entre le mouvement des petits flots et les gracieuses saccades du vol de l'insecte. Il rouvrit son carnet, ébaucha quelques vers assez jolis, où il appelait les libellules « filles du ruisseau » et « âmes des fleurs ». Puis, haussant les épaules, il biffa sa poésie et reprit le chemin de Dolmore en se disant qu'il avait fait une promenade sans profit et sans plaisir, mais au moins sans fatigue et sans contrainte. Cela valait toujours mieux que les longues courses autrefois fournies à travers la puanteur et la poussière de Paris avec un travail insipide pour but. Dans ce temps-là, bien près de lui encore, combien de fois ne s'était-il pas dit, en entrant dans une étude poudreuse ou dans un comptoir sombre, « Mon Dieu, un arbre au bord de la Gouvre et le loisir de regarder courir son eau claire. C'est bien peu ce que je vous demande, et vous me le refusez. » « Je suis un ingrat, » se dit-il en marchant. « J'ai ce que je rêvais, et je ne m'en contente pas. » Quand il fut arrivé au tournant des roches, il marcha encore d'un pas pressé, les yeux fixés à terre, attentif à une mouche, à un brin d'herbe, se disant que partout, sur ces jolis sentiers de sable fleuri de bruyères roses et de genêts sagités, il pouvait contempler un poème ou surprendre un drame, tandis que sur le pavé des grandes villes, il n'avait vu que de la fange ou des immondices. Et puis, sa pensée fit une excursion sur les hautes montagnes. Il revit les neiges diamantées par le soleil, les aiguilles de glace bleue sur le ciel rose, et tout à coup, croyant être arrivé à la porte de son chalet, il s'aperçut de sa méprise. Il avait, au tournant des roches, pris sa gauche pour sa droite, et il se trouvait à la porte de Valida, le domaine habité par Marianne. Valida était une métairie bien tenue pour le pays et pour l'époque, ce qui n'empêchait pas le fumier de s'élever du milieu d'une mare de purin sans écoulement et l'intérieur des métairies d'être envahi par les animaux de la basse-cour. C'était l'époque de l'année où les bœufs ne labourent plus et ne vont pas encore au pâturage. Les fauchailles n'étaient pas commencées, et pour désennuyer ces bons animaux, on les laissait se promener dans la cour, dont on avait fermé la barrière à claire-voie. Pour toute serrure à cette barrière, une couronne de branches entrelacées est passée entre les deux premiers rayons et s'accroche à un clou de charrette planté dans l'écorce du vieux arbre qui sert de poteau. On soulève cette couronne et la lourde et longue barrière roule sur ses gonds fixés à un autre arbre ou à une souche quelconque. La clôture est un talus couronné d'épines en haie ou d'épines sèches coupées et couchées régulièrement dans la terre battue. Celle qui fermait la ferme de Valida était ancienne et très belle. Elle se composait de plantes venues au hasard dans un terrain riche, épines noires et blanches, sureaux, ronces en fleurs, noisetiers, têteaux de chêne, d'où part de chaque côté une longue branche courbée et enlacée aux souches voisines, le tout enguirlandé de houblons et de vignes vierges. Les talus étaient recouverts de mousse veloutée, et le petit fossé verdissait sous le cresson, la véronique et la flèche d'eau. Pierre, voyant qu'il s'était fourvoyé et se faisant remarquer à lui-même qu'il n'avait rien à dire à Marianne qui valût la peine de la déranger, ne souleva pas la couronne de branches qui servait de cadenas à sa porte, et revint sur ses pas en se gourmandant de sa distraction. Mais l'appartement de la demoiselle, qui avait sa sortie de derrière sur la cour d'exploitation, était tourné en sens inverse et regardait le jardin, situé au midi. Ordinairement, le logis du maître, composé d'un simple rez-de-chaussée, prend le jour et la vue sur le domaine, sur le tas de fumier, sur les travaux d'intérieur et sur le bétail, qu'il peut surveiller et qu'il aime à contempler à toute heure. Marianne avait changé cette disposition. Elle avait fait murer ses fenêtres, se ménageant seulement une porte qui lui permettait de communiquer à tout instant avec son monde. Sur la face opposée du bâtiment, elle avait ouvert une fenêtre nouvelle et une porte vitrée. Le bas de la maison n'offrait de ce côté-là qu'un mur sombre égayé par un grand jasmin jaune, une clématite odorante répandue en mille festons touffus et des pyramides de passereuses variées. Elle avait fait dallé le sol sur une largeur de 4 mètres et un auvent de tuiles protégeait contre l'humidité cette sorte de véranda, fermée de fleurs et d'arbustes, avec une allée ouvrant au milieu et se prolongeant jusqu'au bout du jardin. Jardin assez petit, mais charmant, et différent fort peu de ceux des paysans aisés d'alentour. Un ou deux carrés de légumes, avec des œillets et des rosiers en plate-bande, bordure de thym et de lavande. Dans un coin, le vieux buis, destiné aux palmes du dimanche des rameaux. Plus loin, le verger couvrant de ses libres ramures une pelouse fine. Autour de l'ensemble, le berceau de vigne traditionnel avec sa haie pareille à celle de la cour et son échalier fermé d'épines sèches. C'est dans ce jardin solitaire que Marianne Chevreuse lisait ou travaillait à l'aiguille quand elle n'était pas occupée à la métairie. Justement, elle se promenait sous le berceau de vigne au moment où Pierre-André passa sur le chemin encaissé qui devait le ramener vers sa demeure. Leurs yeux se rencontrèrent avec une surprise réciproque, et ils échangèrent un bonjour amical, un peu gêné. Pierre, qui se rendait vaguement compte de son propre malaise, ne s'expliqua pas du tout celui de Marianne, et supposa qu'il y avait quelque chose de contagieux dans la gaucherie qu'il mettait à la saluer. Chapitre 8. Elle lui demanda des nouvelles de sa mère. « Elle va bien, répondit André. Seulement, elle s'ennuie de ne pas te voir. Sais-tu que tu deviens très rare? Il y a 8 grands jours qu'on a entendu parler chez nous de la petite voisine. Vous ne vous êtes pas absenté depuis 8 jours, mon parrain? Nullement. J'ai fini de courir pour mon jardin et ma bâtisse. Tout est fini. Et je compte à présent tenir fidèle compagnie à ma mère. Est-ce à dire que tu vas nous priver de la tienne? La privation ne sera pas grande pour vous, parrain, mais si madame André s'en plaint, j'irai dès qu'elle me fera appeler. Il faut venir, petite. Ma pauvre maman ne marche plus aisément hors de son jardin. Elle ne peut plus guère aller te trouver. Si tu la délaisses, elle en souffrira. « Je ne compte pas du tout la délaisser, mais je m'imagine qu'elle aime beaucoup mieux être avec vous qu'avec moi, et que je pourrais vous gêner si j'étais trop souvent entre vous. »
« Nous gêner, voilà une singulière idée. N'es-tu pas de la famille ?»
Et comme Marianne ne répondait pas, André prit tout à coup, sans préméditation, un grand parti, comme s'il eût voulu se débarrasser d'une secrète angoisse.
« Oui, Marianne, ajouta-t-il, tu deviens singulière, et il y a en toi des choses que je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut te parler ? As-tu le temps de m'écouter et de me répondre ?»
Oui, mon parrain, je vous écoute.
Te parler comme cela à haute voix au travers d'une haine et guère commode, puis-je entrer chez toi?
Mon parrain, allez jusqu'à l'échalier, je vais vous rejoindre.
Marianne courut et arriva la première. Elle tira adroitement et sans se piquer le gros fagot d'épines, enjamba l'échalier et sauta légèrement sur le petit chemin vert où André la trouva prête à l'écouter.
« Il paraît, lui dit-il, qu'on n'a pas la permission d'entrer chez toi. Je pensais que tu me ferais les honneurs de ton jardin. »«
Mon jardin, il est, et pourtant je l'aime. Vous qui avez du goût, vous vous en moqueriez, et cela me chagrinerait. »«
Quand je te dis que tu es singulière. » »«
Je n'en sais rien, vous ne l'aviez jamais remarqué, c'est la première fois que vous me le dites. » »«
D'abord. » Pourquoi as-tu cessé de me tutoyer depuis que me voilà définitivement revenu? C'est donc le respect que t'inspire mon grand âge?
Non, vous n'êtes pas vieux, et je ne suis plus toute jeune.
Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne réponds-tu jamais directement à une question directe?
Marianne parut surprise, et regardant André avec attention,
« Vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui, lui dit-elle.
Il fut frappé de son regard empreint de fierté et de pénétration. C'était la première fois qu'elle le regardait ainsi.
« Je suis de mauvaise humeur, c'est vrai, répondit-il. J'ai à te faire une communication embarrassante, et tu ne m'aides pas du tout.
« Embarrassante ? Dit Marianne en le regardant encore avec une certaine inquiétude.
« Qu'est-ce qui peut être embarrassant entre vous et moi ?
Tu vas le comprendre. » « Marchons, il fait trop frais encore pour s'arrêter à l'ombre quand on a chaud. Veux-tu me donner le bras ?»
Marianne passa sans rien dire son bras sous celui d'André. Elle attendait.
« Eh bien, dit-il brusquement en reprenant sa marche, voilà ce que c'est. Une personne qui voudrait te connaître s'est adressée à moi. Je ne crois pas pouvoir te la présenter sans y être autorisée par toi. » Car je ne veux pas te mettre en rapport avec elle par surprise.
Je vous en remercie, mon parrain. Une surprise, en effet, me déplairait beaucoup. Il s'agit sans doute d'un projet de mariage.
Précisément.
Vous savez que j'en ai refusé plusieurs?
Ma mère me l'a dit. Elle prétend que tu ne veux pas te marier, est-ce vrai?
Non, elle se trompe. Je ne veux pas des prétendants qu'on m'a offerts, voilà tout.
« Il te déplaisait ?»«
Non, mais il ne me plaisait pas assez. »«
Tu veux aimer ton mari ?»«
Naturellement. Celui que vous me proposez... »«
Je ne te propose rien, je fais une commission. »«
Sans désirer qu'elle m'agrée ?»«
Tu peux, sans te gêner, m'envoyer promener. »« Mais tu ne peux pas me répondre, tu ne connais que de nom la personne dont il s'agit. » »«
Alors je vous ai répondu. » Je ne refuse pas de la voir, à moins que vous ne me disiez d'avance qu'elle ne me convient pas du tout.
Tu me croirais sur parole?
Vous ne voudriez pas me tromper?
Certainement non. Eh bien, le jeune homme a un défaut, il est trop jeune.
Plus jeune que moi?
Oui.
Et puis? Et puis, comme tu y vas, tu passes outre sur la principale objection.
« Je n'ai pas dit que je n'en tenais pas compte. Je demande à tout savoir. »«
Il est moins riche que toi pour le moment, mais plus tard, il le sera probablement davantage. »«
Et après ?»«
Après, rien que je sache, je ne le connais guère que de vue. J'ai fort peu causé avec lui. »«
Quelle figure a-t-il ? » ?»«
Une assez belle figure. Grand, bien fait, beau garçon en un mot. » Et quel air ?
L'air content de lui, puisqu'il faut tout dire.
Vous ne me dites rien de sa famille.
Très honorable, et sur laquelle tu pourras te bien renseigner. Elle est du pays, et l'a quitté il y a une dizaine d'années.
Est-ce que ce ne serait pas un fils gaucher dont vous me parlez ?
Je ne comptais pas le nommer avant d'avoir ton assentiment à la présentation, mais puisque tu devines si bien...
Je ne me rappelle pas bien, dit Marianne pensive. Ils sont deux ou trois ?
Ils sont deux. C'est le plus jeune qui aspire à ta main.
Il aspire ? Je me le rappelle très confusément. C'était un enfant. Il ne doit plus se souvenir du tout de moi. Il a donc besoin de mon petit avoir ?
Il n'aspire pas précisément, c'est son père. Mais tiens, j'ai la lettre. Puisque tu sais tout, tu peux la lire.
Marianne s'arrêta pour lire la lettre du père gaucher. Elle le fit avec sa tranquillité habituelle. André observait son visage, qui eut un imperceptible sourire à deux ou trois passages où le commerçant traduisait la question du mariage avec une crudité ingénue. Mais elle ne s'étonna ni ne se fâcha, et rendit la lettre à Pierre en lui disant « Eh bien, laissez-le venir, mon parrain. On verra. »